على آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. شافر ان اسلام، on va revenir quelques instants sur le verset numéro 20, numéro 19. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Le verset 20, on avait expliqué la dernière fois, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Ces versets qui décrivent l'ange Jibril alayhi salam. Donc ça, on avait plus ou moins expliqué la dernière fois. Et Ibn Kathir rahimahullah, il rajoute également une parole qui est magnifique. Il dit que le fait qu'Allah azza wa jal décrive l'ange Jibril alayhi salam comme étant dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin, qu'Allah azza wa jal cite les vertus, les qualités de l'ange Jibril alayhi salam, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Qu'Allah rabbul 'izza, le Seigneur des mondes, dans le Coran cite les sifat, les qualités d'une de ses créatures. Ça prouve vraiment que l'ange Jibril alayhi salam est un ange exceptionnel, vraiment, on pourrait dire, au-dessus de tous les autres malaïka. Donc ça, c'était par rapport à la dernière fois. Alors le verset qui nous intéresse ce soir, c'est innahu la qawlu rasulin karim. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. C'est quoi le Coran? Le Coran, c'est quoi? Le livre d'Allah. Quoi d'autre? Le message, la parole d'Allah. Quelqu'un qui choisit à rajouter? Dans l'aqida Ahl al-Sunnah wal Jama'a, oui. Un guide. Mais d'une manière générale, le Coran, c'est kalamullah. Le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Les ulama aqida disent kalamullah ghayr makhlouq. C'est la parole d'Allah. Il y a eu une époque, hein, à une certaine époque, il y a eu des divergences d'opinion très graves, hein, qui peuvent pousser jusqu'à des points qu'on ne peut pas imaginer. Coran, parole d'Allah ou créature. Hein, donc, Ahl al-Sunna wal Jama'a, ils sont d'avis que le Coran, c'est kalamullah. Alors que là, on voit dans ce verset, le verset qu'on vient de lire, ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Et quand on parle de noble messager, quelles sont les descriptions qui viennent juste après? Doué d'une grande force, ayant un rôle élevé auprès du maître du trône, obéit là-haut et digne de confiance. Et on a vu que ces paroles-là, que ces qualités-là, ces versets correspondent à l'ange Jibril alayhi salam. Est-ce qu'il y a une contradiction? Alors, s'il y a une personne qui dit, il y a des groupes, un groupe de personnes qui s'appellent les Mustashriqin. Mustashriqin, on avait parlé une fois, peut-être il y a quelques années. Ce sont des personnes qui étudient l'islam dans le but de mieux le combattre. Les Mustashriqin, ce sont des personnes qui, des gens qui ont des niveaux universitaires, d'accord, ils vont faire des thèses en islamologie, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Bref, étudier l'islam d'une certaine façon dans le but de mieux connaître et de mieux contrer, de mieux combattre l'islam, soi-disant en maîtrisant les bases de la religion. Et là, on voit que, subhanallah, wa makaru makran, ils essaient de trouver une ruse, mais, entre guillemets, la ruse d'Allah est plus forte. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Ils essaient de trouver, akid, makr, c'est à peu près des synonymes, ils essaient de trouver des solutions, ils essaient de tromper, mais Allah Azza wa Jal est plus connaisseurs de leur ruse, et Allah Rabbul Izzah leur montre les erreurs qu'ils accomplissent. Ces Mustashriqin, ils ont essayé d'étudier la religion et ils ont essayé de produire des ouvrages, des livres et tout, pour démontrer les, entre guillemets, les failles qu'il y aurait, parce qu'on parle au conditionnel, qu'il y aurait dans la religion. Ils ont essayé de démontrer, ils ont essayé de chercher des contradictions qui peuvent exister dans la religion, entre les versets, mais cela a nécessité beaucoup de recherches et ça n'aboutit à rien du tout. Quand on a des contradictions, bayin, clair et net, il n'y a pas besoin d'être un grand chercheur à, je sais pas, bac plus 12 pour trouver des contradictions. D'accord? Le premier venu qui analyse, par exemple, les quatre versions d'un autre livre révélé avant le Coran, il voit exactement, il voit clairement qu'il y a entre les quatre versions des différences, et pas seulement des différences, mais des tanakud, des contradictions. Et il ne peut pas y avoir de contradiction de la parole révélée par Allah, et on arrive à la conclusion que tout ce qui a été révélé avant le Coran n'est plus authentique, a subi des falsifications. Alors que pour le Coran, il est impossible de trouver une quelconque faille, une quelconque opposition, divergence entre les versets, et encore moins une opposition entre les versets. Vous savez, quand une personne peut écrire des livres, peut tenir un discours pendant, allez, on va dire, subhanallah, le Coran a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 40 ans, c'était le début de la révélation, et subhanallah, sur 23 années, imaginez qu'une personne écrive pendant 23 années, ou qu'une personne, je sais pas moi, tient des discours. À un moment donné, nous sommes des êtres humains, il y a des fois où on se trompe, il y a des fois où on va répéter la même chose. Il y a des fois, on a déjà dit quelque chose, on répète. C'est parce qu'on a oublié. Parce qu'on est des êtres humains, oui, non. J'ai déjà dit la même chose, je répète, parce que j'ai oublié. Ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'on parle ici, on parle là-bas, on oublie. Ou alors, on prend un peu de l'âge. On est un petit peu âgé, on commence à se répéter, comment dire, à radoter, d'accord. Parce que radoter, râtelier, ça rime, d'accord. Ainsi de suite. Donc, l'être humain, qu'il écrive ou qu'il parle, qu'il tienne un discours, à un moment donné, la personne faiblit. À un moment donné, la personne va se contredire. À un moment donné, il va dire quelque chose et peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans après, il va dire quelque chose qui va un petit peu à l'encontre de ce qu'il avait déjà dit avant ou qui sera le contraire. Parce que nous sommes des êtres humains, parce qu'il y a des fois où on a une vision des choses et au bout de 10 ans, notre vision des choses a changé. On va dire que oui, mais monsieur le professeur un tel, en 1990, vous avez écrit dans votre livre telle chose et là maintenant vous affirmez son contraire. Il dit oui, parce que les données ont changé, je percevais les choses de la sorte, et maintenant, au vu des analyses, des études récentes, on découvre que c'est pour ça que maintenant on affirme que, et c'est comme ça dans toutes les sciences humaines, tout ce qui est en relation avec l'humain ne peut pas rester figé, fixe, ne peut pas être pas parfait. Ça sent, soit il y a un incendie, soit il y a des grillades, et dans ce cas, son vieux est en train de brûler. D'accord ? En tout cas, ça sent le cramer. Donc voilà, ça c'est la parole des êtres humains. Tanaqud. Il ne peut pas y avoir de perfection. Alors que le Coran, en 23 années, qui a été révélé, personne n'est capable de mettre en avant, de déceler une erreur, une contradiction, ou alors des divergences. Alors que dans le Coran, très souvent, il y a des histoires des Anbiya, alayhim salatu wassalam, ou des peuples précédents qui sont répétées à plusieurs reprises dans différents chapitres. Comme par exemple l'histoire de, quelle histoire de ce prophète qui est le plus souvent raconté dans le Coran? L'histoire de Moussa, barakallahu fikum, Moussa alayhi salam. L'histoire de Moussa alayhi salam vient dans, mashallah, je n'ai plus en tête le nombre de chapitres, mais c'est l'histoire qui est racontée le plus souvent. Et le risque, quand on répète une histoire, c'est qu'il y a des fois où on répète les mêmes choses. Et vous savez, répéter la même chose, c'est aïb. C'est un manquement dans le discours ou dans l'écriture. Quelqu'un qui écrit un roman, il a déjà parlé d'un chapitre, il redit la même chose sans apporter quelque chose de nouveau. C'est un manquement, d'accord, dans la qualité de l'auteur. Alors que les Mufassirin disent, c'est pas le sujet du jour, hein. Alors que les Mufassirin disent que analyser l'histoire de Moussa alayhi salam depuis sourate Baqara jusqu'au dernier verset où on parle de Moussa alayhi salam, ce ne sera jamais la même chose. Il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours un faïda, il y aura toujours une information supplémentaire. Et l'endroit où Allah Azza wa Jal cite l'histoire de Moussa alayhi salam, c'est souvent en relation avec une partie, une période de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est souvent ce qu'on appelle en arabe tasliya, un encouragement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à des situations qu'il vit avec les Mekwa ou avec différentes populations, avec les Yahoud à Madina et ainsi de suite. Il y aura toujours un apport. C'est-à-dire la répétition de l'histoire n'est pas en vain. Et à chaque fois que l'histoire revient, il y aura toujours un intérêt. Il y aura toujours quelque chose en plus qui va compléter. Il n'y aura jamais deux phrases qui veulent dire exactement la même chose et qui tombent au même endroit. Et ça, ça nous prouve que c'est un texte qui est parfait. Et aucun texte ne peut être parfait s'il n'émane de du créateur, de celui qui est parfait, d'Allah Azza wa Jal. Et donc, malgré les répétitions, l'autre risque possible, c'est qu'à un moment donné, il y a des contradictions, mais jamais. Jamais de divergence, jamais non plus de contradiction. Donc ils ont essayé de retourner dans tous les sens, ils n'ont rien trouvé. Donc ils ont essayé de toucher au hadith, au texte prophétique, Ils ont essayé de chercher, ils ont essayé de retracer les hadiths avec les chaînes de narration. Une étude très sérieuse qui a été faite par un savant autrichien qui s'appelle, son nom m'échappe, Winseng ou Jinseng. Non, pas Jinseng, ça c'est autre chose. Winseng, d'accord. Je vous confirme le nom, ça se termine par Eng, ça commence par W. Donc je pense que ça doit être à peu près ça. Ça s'appelle Concordance des... Ça commence par Concordance... j'ai plus le titre, hein. Donc c'est un livre que j'ai acheté, d'accord, je regrette de l'avoir acheté, jamais utilisé, à part qu'une fois. Mais bon, les gens qui font des recherches en hadith, ils l'utilisent, d'accord. Nous, à notre niveau, hein, c'est, on n'est pas encore là, on est malheureusement, on n'est pas à ce niveau. Mais vous savez, ce livre a été écrit avec une mauvaise intention, de porter atteinte au texte prophétique. Parce que Kalamullah, il n'y a rien à dire, à redire. Personne n'a pu produire un livre qui met en danger les paroles, les versets du Coran. D'accord ? Pour les hadiths, cet homme-là, il a essayé et cela s'est retourné contre lui. Il était mal intentionné. En finalité, ça n'a porté aucunement atteinte aux paroles du Prophète sallam. Et bien au contraire, le travail de recherche qu'il a fait a été profitable pour la Ummah. Et c'est un livre qui se vend dans les makatib, à Makkah, à Madina, dans le monde musulman, parce que c'est devenu un livre de référence où il y a des hadiths. C'est un, voilà, c'est un dictionnaire, un encyclopédie de hadiths. Voilà, maintenant, ça me revient. Vous cherchez un mot en arabe, niya, intention, ou salah, je sais pas, ou saum, ou sadaqa. Vous cherchez le mot sadaqa, et c'est en 13-14 volumes. Hein. Attention, si vous portez ça, attention les disques, hein, d'accord. C'est en 14 volumes à peu près. Et donc, vous cherchez le mot « sadaqa », vous avez toutes les lettres, la lettre « sa », trouvez « sadaqa », et il vous donne tous les livres de hadith où on parle de « sadaqa », et vous dites « tel référent, Abu Daoud, tel volume, telle page, An-Nasa'i, tel volume, telle page, Muslim Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, Ibn Majah, Ibn Hibban ». Un travail monstrueux, un travail énorme, monstrueux au sens propre, qui avait l'intention, qui avait pour but d'être monstrueux, mais qui en finalité, subhanallah, s'est retourné contre la personne et maintenant, c'est devenu un ouvrage de référence. Vous avez besoin de... C'est vraiment, ça veut dire, les gens vraiment spécialistes, ils veulent chercher tous les textes qui citent cette thématique dans tous les livres de hadith disponibles. Ils vont dans cette encyclopédie écrite par cet autrichien non-musulman et voilà. Donc voilà comment ces personnes qui ont essayé de porter atteinte au Coran ou à la Sunna n'ont heureusement, et malheureusement pour eux, et heureusement, rien pu faire parce que tout ça c'est scellé. Tout ça c'est protégé par Allah Azza wa Jal. Vous comprenez pourquoi on doit être encore plus fier de notre din, al-iman bil-kutub, croire au livre, être fier, on a le Coran, ça c'est parfait ça. Ça c'est intouchable, il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit. On doit être fier d'être musulman. Comme on le répétait à Saint-Clotilde quand on parle de Aqidah, iman bil-kutub, on dit que quand on est musulman, on est croyant, on est musulman, on doit en être fier. Jamais développer un complexe d'infériorité par rapport aux autres cultures, par rapport aux autres civilisations. Regardez pas la couleur, lui il est blanc, moi je suis basané, comment on dit, comme ça, ou noir ou autre chose. Peut-être que lui il est supérieur à moi, peut-être que lui il a compris plus de choses, lui il vient de tel continent, il connaît mieux. Du tout, yahri, tu as kalamullah, tu as shahadat al-tawhid de ton cœur, ta référence c'est kalamullah, ton prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu as eu la meilleure des religions, le meilleur des livres, le meilleur des prophètes. Aucune raison d'avoir un quelconque complexe par rapport à celui qui ne croit pas en Allah, celui qui s'il meurt dans cet état, il sera, sa destination sera wa ma'wahu an-nar, la destination sera l'enfer khalidina fiha abada, où il restera pour l'éternité. Où ces gens, le jour de Qiyama, ils vont demander « Ya laytani kuntu turaba » les versets qu'on cite depuis pas mal de temps. Être fier de notre vie. Donc ces gens, ils ont tout essayé, ils n'ont pas trouvé. Maintenant, si quelqu'un essaie de dire « Ben voilà, le Coran, c'est la parole d'Allah, mais ce verset dit que c'est la parole de Jibril alayhi salam. » Et si on va plus loin, les gens disent « Voilà, il y a un autre verset qui dit « Innahu la qawlu rasulin karim dhiqou » Non, fala uqsimu dans al-haqqa, fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun, innahu la qawlu rasulin karim. Voyez, même si on ne connaît pas les versets par cœur, on retrouve les mêmes mots, les mêmes phrases. Innahu la qawlu rasulin karim, avec nous on a dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin, dans al-haqqa on a innahu la qawlu rasulin karim, wa ma huwa bi qawli sha'ir. Dans le verset al-haqqa, on fait référence pareil que c'est. Ce sont les paroles, ceci, le Coran est la parole d'un noble messager, Dans Al-Haqqa, ce noble messager, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans At-Takwir, on parle de ce noble messager qui est l'ange Jibril alayhi salam. Alors si quelqu'un se dit, ben voilà, il y a une opposition, il y a une contradiction dans ces versets. Il faut aller vers le tafsir. Il faut aller vers les commentaires. Et dans les commentaires, on va clairement, quand on fait jam', on essaie de comprendre les deux versets avec les versets qui disent, qui stipulent que le Coran c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. On arrive clairement, et ça c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir un grand niveau de science pour comprendre que le Coran c'est la parole d'Allah. Mais comme le Coran a été transmis, pourquoi est-ce qu'il est décrit comme étant la parole de ce messager? Parce qu'Allah Azza wa Jal a confié sa parole, la parole d'Allah, à l'ange Jibril. Donc c'est pour ça que ça a été qualifié comme la parole de l'ange Jibril. Et comme c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est chargé de établir de la propagation, l'ange Jibril, il prend du seigneur des mondes et il va propager à la race humaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récupère les paroles d'Allah qui lui ont été transmises par donc les paroles de l'ange Jibril alayhi sallam du monde des anges qui vient d'Allah azza wa jal, et il va maintenant le transmettre à la umma, à la communauté, aux croyants, à ceux qui veulent écouter les paroles d'Allah. C'est pour ça que c'est la parole d'Allah, ça a été qualifié comme la parole d'un envoyé, c'est l'envoyé Jibril qui amène les paroles, ça a été qualifié comme les paroles de l'envoyé en parlant du prophète sallam, parce que celui qui reçoit et c'est lui qui va transmettre la parole à la umma, à toute personne qui veut écouter le Coran. Voilà donc la synthèse entre ces trois thématiques. Ça c'était juste pour avoir une idée, d'accord, comment est-ce qu'on comprend les versets, et qu'il ne suffit pas de s'arrêter sur la traduction. Très souvent, je sais qu'on incite les personnes à lire le Coran et à lire sa traduction. C'est une bonne chose, c'est profitable. Maintenant, l'idéal, ce serait d'aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a des fois, avec la simple traduction, on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce que là, ça a été traduit? Dans la traduction, je vois telle information, et dans l'autre verset, il y a telle information. Il peut y avoir un doute. On peut se poser des questions. Il faut surtout pas laisser le doute s'installer. La meilleure des solutions, soit on demande à un savant, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'alamun. On demande aux gens de dhikr, petite parenthèse, les savants, les moufassins disent que voyez, fas'alu ahla dhikri, le dhikr en général, quand on parle de dhikr, on pense le dhikrullah, subhanallah, alhamdulillah, d'accord? Donc, à travers ce verset, les mufassirs disent que quand on dit face à ahl dhikri, ce sont les savants. Ce n'est pas les gens qui s'assoient pour faire dhikr. Ça, on a bien compris. D'accord? Donc, pareil, quand il y a le hadith qui dit que lorsque vous passez près des jardins du paradis, arrêtez-vous en ce sens. Et ça veut dire au prophète d'Allah, c'est quoi les jardins du paradis? Majalis ou dhikr. Les assemblées de dhikr. Il y a des gens qui donnent une autre interprétation. Majalis ou dhikr, c'est les endroits où les gens s'assoient pour faire le tasbihat ensemble. Non, majalis ou dhikr, c'est majalis ou l'ilm. Les endroits où on enseigne le ilm. C'est là où le prophète dit, asseyez-vous. Ça, c'est les jardins du paradis. Cette assemblée de ce soir, ça fait partie des jardins du paradis. Bi'idhnillah. Et qu'Allah nous pardonne le manquement dans ce qu'on va dire, mais ça fait partie, ça a été qualifié comme étant des jardins du paradis parce que c'est des endroits où on parle du dhikr. Vous voyez que même pour comprendre un hadith, on a un mot. Là, vous voyez, on a peut-être une personne peut voir une opposition entre les deux versets, mais là, on voit plus clair. Alors, pareillement, on appelle ça des shubuhat, qu'on appelle ça des doutes ou alors une mauvaise compréhension. Une personne entend des assemblées de dhikr, il faut aller dans les non, quand pas de majalis ou dhikr, c'est majalis ou l'ilm. Il y avait un tabi'in également qui est décédé. Justement, je ne me souviens plus du nom du tabi'in. Les noms des tabi'in m'échappent ces derniers temps. Allahu Akbar, il disait que, il allait mourir. Il dit que la seule chose que je vais regretter, il avait des regrets. Les gens disent, il parle avec la personne, il dit pourquoi tu regrettes, tu vas retourner auprès d'Allah et tout. Et les gens savaient quel était le manzila, le degré de cette personne. Il a dit que non, il y a une seule chose. Qui provoque un peu ses remords de quitter le dunya. C'est pas quitter la famille, c'est pas les biens, c'est pas les choses que je possède, non. La seule chose qui me plaisait de ce dunya, c'était les majalis ou dhikr, où on pouvait apprendre le dîn d'Allah. Et les savants disent, voilà encore une interprétation, parce que c'est des paroles de tabi'in, d'accord? C'est les gens qui maîtrisaient le mieux la langue arabe, et à travers leurs paroles, on comprend les définitions, les différentes utilisations d'un mot. Le mot dhikr est utilisé, certes pour le dhikr Allah, mais dans ce sens-là, c'est pour la connaissance religieuse. Donc ça, c'était une petite parenthèse très, très, très importante. importante, parce qu'il y a des fois où on va vers d'autres interprétations. Donc, qu'est-ce qu'on disait, subhanallah? Alors, on était avec, si quelqu'un peut me rappeler, on avait expliqué donc l'opposition qu'on pouvait trouver entre la qawl au Rasul et le Karim. On est arrivé à un point important là, subhanallah. À force d'ouvrir des parenthèses, on finit par perdre le fil, khair, inshallah. Donc on disait que donc, Jibril al-Islam qui transmet la parole, c'est pour ça que c'est qualifié comme étant la parole de Jibril, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui transmet la parole, c'est pour ça que c'est qualifié comme étant la parole de Rasul al-Karim, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si inshallah on retrouve, il y avait un point très 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 important, on allait aborder.
C'est pas sept.
Comment ? Les moustachiquines, les sectes, c'est fini ça. On en a parlé. Il y avait un point que je n'avais pas écrit. Le problème, c'est qu'on n'écrit pas tout et on perd le fil. Il y avait un point important. Qaddar Allah. Inch'Allah, peut-être ça va revenir. Donc, ça nous permet de comprendre ce ayah. Khair, Inch'Allah. Donc, on va continuer. Et qu'est-ce qui fait également. C'est pas ça, ça c'est autre chose. Hein. Et qu'est-ce qui fait également qu'en aucun cas, le Coran peut être défini comme étant la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, Allah a décrété, ça c'est la hikmah, la sagesse d'Allah Azza wa Jal, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit ummi, qu'il soit illettré. Et illettré de nos jours, c'est péjoratif. Hein? Mais quand on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré, ça ne doit pas, il ne doit pas y avoir de connotation péjorative. Non, c'était le cas de la plupart des Arabes à l'époque. Très peu de personnes à cette époque savaient lire et écrire. D'ailleurs, quand on en trouvait, on en profitait. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait donné une fois, lors d'une bataille, une guerre, d'accord, il y avait une guerre, il y avait donc des prisonniers. Et qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait demandé à ses prisonniers? Le prophète n'était pas un tortionnaire. Il a demandé aux prisonniers, voilà, en échange, vous allez enseigner à lire et à écrire aux enfants de Al-Madina. D'où l'importance de la lecture et de l'écriture. Et donc, le prophète, Allah Azza wa Jal aurait pu faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aurait pu décréter que le prophète soit un homme brillant, intelligent, admiré de tous, hein, pour sa maîtrise de la langue arabe, pour sa maîtrise du poème. C'était des sifats chez les Arabes, ça. On avait déjà expliqué ça. Chez les Arabes, celui qui connaît des poèmes et celui qui peut écrire des poèmes, c'est vraiment une qualité. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, ça me revient. C'était donc l'histoire du Tabi'in, lorsqu'il disait que les seules choses qui le tiennent à cœur de ce dunya, c'est les majalis de dhikr, où on peut apprendre le dîn d'Allah, et avec ça, on a compris le stilaha de dhikr, et ça nous permet également de comprendre comment les Tabi'in, je voulais arriver à cette conclusion, comment les Tabi'in étaient attachés à ce genre d'assemblée. C'était les meilleurs des hommes. Pour eux, il n'y avait rien de plus important que les assemblées où on pouvait apprendre la religion. Et donc, pour revenir à l'histoire de la maîtrise de la langue, Allah a décrété que le prophète alayhi salatu wassalam soit une personne qui ait énormément de sifat, de qualité. D'où le verset suivant, « Wa ma sahibukum bimajnun » mais on va y revenir dans un instant. Il avait des qualités. On sait tous qu'il était l'homme le plus aimé, le plus apprécié à Makkah, depuis sa jeunesse. Et même quand il était petit, il avait une certaine notoriété. Il était un enfant, tout petit, 3-4 ans. On va se dire que oui, mais on va dire 4-5-6 ans. Il n'y a qu'à cet âge-là, ben, qu'est-ce qu'il peut prouver aux gens? Il avait, vous savez, il y a des gens qui dégagent un charisme. C'est possible pour des adultes, mais le prophète, dès son jeune âge, il dégageait un charisme. Il y avait un charisme et il inspirait le respect. Et son grand-père, Abdul Muttalib, avait un endroit où il s'asseyait en face de la Kaaba. Abdul Muttalib, c'est parti des anciens, des chefs de tribu, quelqu'un de respecté. Il y avait un endroit qui était réservé à Abdul Muttalib. Et personne ne s'asseyait à cet endroit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est encore petit, hein, instinctivement, il venait s'asseoir à cet endroit. Et Abdul Muttalib, en voyant ça, il dit que cet enfant-là, il aura un sha'an, un jour, il sera quelqu'un de très important. Parce qu'il voyait, il avait une certaine vision des choses, un recul, il pouvait décrypter un petit peu le geste des gens, il voyait que ce comportement prouve que c'est quelqu'un, c'est un enfant qui a de la noblesse en lui. Et un jour, il va devenir quelqu'un d'exceptionnel. Et donc, Allah Azza wa Jal a décrété que le prophète alayhi salatu wassalam soit admiré de tous pour ses qualités, pour ses valeurs, pour sa spiritualité, son honnêteté, le fait qu'il était véridique. Il était surnommé Al-Amin, l'homme de confiance. Et à plusieurs reprises, Les Mécois ont vu que le prophète alayhi salatu wassalam, Mohammed sallallahu alayhi wasallam, était quelqu'un d'exceptionnel. Il y a l'histoire, par exemple, de la reconstruction de la Kaaba, où les tribus mécoises, ils allaient presque en arriver aux mains. Il suffisait d'un étincelle à cette époque pour arriver à une guerre entre les tribus, pour savoir qui va replacer la pierre noire. Tous les chefs de clan voulaient avoir cet honneur, parce que ce sera dans l'histoire de la Kaaba que quand la Kaaba a été reconstruite après l'incendie, ou alors selon certaines sources par rapport à la pluie, a été détruite, donc c'est telle tribu qui a eu l'honneur de replacer la pierre noire. À cette époque, tout était une question d'honneur. Cette tribu, ce Kabila a eu cet honneur, et les gens vont parler de ça tout le temps. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam a donné l'idée qu'ils ont trouvée extrêmement juste. Il avait dit que, inshallah, demain, la première personne qui rentre dans la masjid, c'est lui qui va nous donner son avis, comment est-ce qu'on va placer la pierre noire. Et Allah Azza wa Jal a décrété que ce soit le prophète sallam qui rentre en premier dans la masjid le lendemain. Ils ont dit que voilà, ça c'est Mohammed. Et quand ils ont vu que c'était lui, ils étaient tous contents. C'est-à-dire que lui, si c'est lui qui nous donne son avis, ça va être quelque chose de bien, parce que c'est un homme juste, intelligent, qui dit toujours la vérité et qui est honnête. Il a dit que voilà, prenez la pierre noire, mettez dans un tissu, que chacun prenne un bout et que vous l'amenez. Donc ils ont trouvé cette idée lumineuse. Ils ont toujours considéré le prophète alayhi salatu wassalam comme quelqu'un d'exceptionnel. Toujours. Donc Allah Azza wa Jal a décrété qu'il soit apprécié de son qawm, de son peuple, par rapport à ses sifat. Et non pas par rapport à son éloquence ou à sa maîtrise de la langue arabe ou sa maîtrise de la poésie. Alors que, comme je disais tout à l'heure, c'était des sifats recherchés par les Arabes. Lorsque Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, entendait parler d'un jeune homme qui voulait se marier, comme nous quand on entend, par exemple, vous avez une fille, reçoit une demande en mariage, premier affaire, demande c'est quoi? Quelle famille? Famille là où ça y saute? Quel niveau social? Quel travail? Combien il gagne? Après, se figure. Est-ce qu'il est beau, il n'est pas beau, il ressemble, c'est un beau jeune homme, il ressemble à un Golgoth, il ressemble quoi? Après, on verra. D'accord? Ce sont nos critères. Le rang familial, les moyens financiers, le pouvoir d'achat. Ah, ça c'est bien, ça rend les gens heureux. Avec le pouvoir d'achat, on est heureux. Et ensuite, le travail qu'il a de la société, sa réputation d'une manière générale, voilà, c'est comme ça que ça marche, d'accord? Donc vous pouvez être quelqu'un de très pieux, bon comportement, si vous n'avez pas au moins 2300 ou 2500 euros par mois, voilà, votre dossier, il est recalé, d'accord? Donc, voilà. Donc, alors que, lorsque Omar ibn Khattab entendait qu'un jeune homme voulait se marier, la première question qu'il demandait, c'est « Kam yahfaz min al-Qur'an ?» Combien de versets il mémorise? Vous voyez les critères? Pas comme nous, hein? D'après vous, pourquoi ils ont reçu de la part d'Allah Azza wa Jalla radiallahu anhum? Ils étaient extraordinaires. Même ça, c'est même après le décès du Prophète, je veux dire. Ils avaient gardé ces valeurs. Première question, combien de versets ils mémorisent? Maintenant, excusez-moi, il ne faut pas perdre le fil, hein? Petite parenthèse, différence entre celui qui mémorisait le Coran à l'époque de Umar ibn al-Khattab et à notre époque. Combien de jeunes qui hafizent le Coran sont de véritables bandits? Ils font la loi dans les collèges, les lycées, ils font pleurer les professeurs, ils causent des dépressions nerveuses aux professeurs et ainsi de suite. Ils se comportent de la pire des façons. Combien parmi nos jeunes qui apprennent le Coran ou qui ont complété, on les retrouve dans des endroits peu recommandables? D'accord? Donc, malheureusement, je n'ose pas dire que ce n'est plus une référence, mais ce n'est pas le même niveau. Ceux qui mémorisaient les versets du Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était autre chose. Tout comme les savants, hein. Un savant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des sahabas et à notre époque, et moi en premier, ça n'a aucune, on ne peut pas comparer. D'accord? Quand on parlait d'un alim à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des sahabas, c'était vraiment des gens, des savants et qui avaient la piété qui vient avec, contrairement à, je dis moi en premier, sans parler des autres, à notre situation qu'Allah nous pardonne. Donc, première question, kam yahfaz min al-Quran? Deuxièmement, est-ce qu'il connaît les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien de hadiths il mémorise? Ah, pas nous, combien nous connaissons, non? Si c'était comme ça, nous tous étions célibataires ici. À part qu'il n'a mal à mal au bin niyat, même ces hadiths basiques qu'on a fait à la madrasa. Voilà. Et troisièmement, kam yahfaz min shi'r al-arab? Combien de poèmes arabes il mémorise? C'est-à-dire, ça c'était Izza, c'était quelque chose de louable à cette époque. Et quand on parle de poèmes arabes, c'est les grands poèmes. Vous voyez, les Arabes étaient profondément attachés à leur culture. La littérature, c'était très important pour eux. Même s'il y en a qui ne savaient pas écrire, mais il fallait mémoriser les grands classiques, on pourrait dire. Allez, si on parle de notre culture à nous, vous prenez un jeune de 17 ans, 18 ans, combien de poèmes de Baudelaire, combien, est-ce qu'il peut déjà citer le nom de 5 poètes français? Ou alors de 5 grands écrivains français ou de grands penseurs français? On ne regarde pas leurs croyances, leurs religions, non, mais des gens qui ont quand même écrit des choses qui sont pas mal. On n'a pas de culture. Par contre, s'il me demande un petit marmaille le nom de tous les Pokémon, il va vous dire tous les Pokémon. Il va vous dire le nom de tous les Lego dans le dernier film qui vient de sortir. Là. D'accord? Il va vous dire le nom de tous ceux qui étaient alignés contre les Pays-Bas. Il va vous dire même que le petit-fils de Zidane, il s'appelle Enzo, il a été là, il a déjà marqué des buts au Real et tout, et ainsi de suite. Il vous donne biographie, tarikh. Complet. Donc, troisième donc, référence, pour Omar ibn al-Khattab, kam yahfaz min shi'r al-arab, ça c'était très important. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas cette qualité de sha'ir. Wa ma huwa bi qawli sha'ir. Ce n'est pas la parole d'un poète. Et ça c'était la décision d'Allah, que le prophète ne maîtrise pas du tout, du tout, du tout cette science. Il ne savait pas faire de rimes, il ne savait pas faire de vers, de juxtaposer des phrases. Comme les poètes savent le faire. Et comme la plupart des arabes savaient le faire à un certain niveau, certains ils savaient moins bien faire, mais c'était quelque chose de plus ou moins commun. Le prophète ne savait pas le faire. Ça, c'était là, la hikmah d'Allah Azza wa Jal. Parce que s'il maîtrisait le vers, il maîtrisait les rimes en arabe, on aurait pu dire que, ben voilà, le Coran, c'est ses paroles à lui. Alors que, et tout le monde savait que le prophète ne savait pas ça. Tout le monde le savait. D'accord? Et donc ça c'est une des raisons pour lesquelles Allah Azza wa Jalla n'a pas donné cette qualité. Et ça, ça nous permet d'écarter totalement cette thèse, que ce soit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, le niveau linguistique du Coran, si on peut appeler ça encore niveau linguistique, parce que c'est divin, donc c'est plus linguistique comme le langage des hommes. Le niveau du Coran est inégalable. C'est la parole d'Allah, et lorsque les mécréants, les mouchriquins de Quraysh, lorsque le prophète والسلام, avait reçu leur visite pour qu'il arrête la da'wah, il avait lu Hamim et quelques versets, ils étaient choqués. Et lorsqu'ils sont retournés, les autres qui attendaient, ils ont dit, alors qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a répondu à votre proposition d'arrêter la da'wah et on t'offre les plus belles femmes, on te donne la richesse, on te donne telle telle chose. Il a dit qu'on a entendu des paroles, Wallahi, c'est pas des paroles d'un être humain. Les paroles qu'il vient de nous dire, ils étaient choqués, hypnotisés. Ces paroles-là, c'est pas des paroles comme nous on dit, alors que les gens-là, c'était les plus grands spécialistes de la langue arabe. C'est pas des paroles d'un être humain, ça. C'est incroyable. Alors que c'était ces mêmes Quraysh qui, lorsque ils écrivaient les plus beaux poèmes en arabe, ont brodé en lettres d'or les plus beaux poèmes dans un souk. Il y avait un marché. Vous voyez, comment ils étaient attachés à la langue. Il y avait un souk, un maharaja, on pourrait dire. Il y avait un marché spécial où les grands poètes se réunissaient et le plus beau poème était grave, était brodé en lettres d'or sur la Kaaba. Comment ils aimaient la langue? Et ces gens-là même, ces mêmes personnes, reconnaissent que cette parole-là, ça ne peut pas provenir d'un être humain, c'est impossible. Les plus grands spécialistes vous disent que ça, c'est pas un homme qui prononce ces paroles, c'est impossible. Vous voyez la puissance d'Allah Azza wa Jal qui se manifeste déjà à travers, on va dire, à travers les versets, sans aller dans les commentaires, dans le sens, les ma'anis profonds des versets. Donc tout ça, avec en plus donc le fait que le prophète والسلام, était illettré, le fait que le niveau linguistique dépasse, encore si c'était les arabes de nos jours, qui disent que ces paroles-là ne peuvent provenir d'un homme, on peut dire que ben, de nos jours, ils ont peut-être 1 ou 2% du potentiel linguistique des premiers arabes. Il n'y a quasiment plus personne qui parle vraiment de façon correcte la langue arabe, qui maîtrise les mots, hein, comme il y a dans le Coran, dans les hadiths, les mots originaux de la langue arabe. Il y a peu de gens, même ceux qui sont diplômés d'université, ainsi de suite, c'est pas évident. Vous écoutez un khutba de Salah al-Boudir, quel que soit le niveau de langue arabe que vous avez, vous pouvez être diplômé. Nous-mêmes, quand on écoutait ces khutbas, c'était 60% qu'on comprenait. Ou 70%. Il y a tellement de mots qui vous ramènent, c'est vraiment des mots fusha, de la langue arabe originale, la plus pure, qui ne sont plus utilisés de nos jours, qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est quelqu'un de notre époque. À l'époque, donc, quand c'est les arabes, les premiers à l'époque, les gens qui connaissaient par excellence la langue arabe, Eux, ils vous disent que ça, c'est impossible que ce soit la parole d'un être humain. Ça nous fait comprendre que ça peut pas être la parole d'un homme qui ne maîtrise pas le poème. Parce que c'est pas uniquement le contenu, j'aurais pu peut-être préciser, c'est pas uniquement le contenu des versets qui est impressionnant. C'est la concordance, les rimes qu'il y a dans les versets, la composition. Vous savez, comme en français, il y a des quatrains, il y a une certaine, il faut qu'il y ait une cohérence dans la longueur des versets, dans la longueur des vers, dans les rimes, dans les concordances, etc. Mais dans le Coran, c'est comment on appelle ça en arabe, en français, un wazn. Il y a un équilibre parfait. Et ça, c'est que les mutakhassisin. De nos jours, on a des savants de ce qu'on appelle al-balagh, la littérature arabe. Eux, ils peuvent décrypter la perfection des versets du Coran. Nous, à notre niveau, on ne peut pas. Mais donc, ce n'est pas uniquement le contenu, c'est la manière dont les versets sont cités, qui déjà est un mu'ajiza. Et troisième élément qui fait que ça ne peut pas être la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-i'ajaz al-ilmi. Le contenu maintenant, on arrive au contenu, et pas uniquement ce qui décrit le passé, le présent, le futur, des choses que le prophète n'aurait pas pu savoir, mais c'est également ce qu'on appelle, on a traduit en français, les versets miraculeux, et tous les versets sont miraculeux bien sûr, mais on va parler plutôt des descriptions de faits scientifiques qui ne pouvaient pas être connus à cette époque. Ça, c'est une thématique qu'on a déjà abordée à plusieurs reprises, on ne va pas revenir. Là déjà, qu'on avait parlé la dernière fois des astres hein, qui naissent et qui disparaissent, ainsi de suite, c'est des choses que de la péninsule arabe, où il n'y a pas un microscope, où il n'y a pas un télescope, il n'y a aucun moyen d'observer le ciel, personne ne pouvait savoir. Lorsque dans le Coran, on parle des sept cieux, des sept mers, des sept cieux, pardon, des sept terres, on parle des deux types d'océans qui ne se mélangent pas, qu'on parle du fœtus, comment il grandit dans le ventre de la maman et ainsi de suite, ce sont des choses qui étaient totalement inconnues par l'ensemble des civilisations à l'époque où le Coran a été révélé. Ce sont des choses qui ont été découvertes il y a maintenant un siècle et demi, à travers les sciences, à travers la géologie, à travers la biologie, à travers la médecine. Ces paroles-là ne peuvent provenir d'un homme. Et les savants disent que si il y a des moments où une personne, à force, je sais pas, vous écoutez un débat, sur une chaîne, ou alors vous avez lu quelque chose, et vous avez commencé à avoir des doutes. Quelqu'un qui met en avant certaines choses sur l'islam, et avec une totale ignorance, hein, dans le but de faire naître un doute dans le cœur d'une personne, il faut dire la hawla wa la quwwata illa billah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, pour chasser les waswasa de shaitan. Il dit que, également, lisez quelques versets, et lisez ces versets où on parle de ces choses miraculeuses qui ne pouvaient pas être connues à cette époque. Ça vous fait réaliser encore plus que ça, c'est kalamullah. Même si eux, ils essaient de te dire d'autres choses, mais ce sont des êtres humains qui essaient de trouver des erreurs, mais ils se trompent eux-mêmes. Alors qu'on a là les preuves évidentes de la grandeur d'Allah, de la puissance d'Allah à travers sa parole. Et donc, on conclut avec, parce qu'on peut se permettre encore 5 minutes, oui. Wama sahib, encore 2 minutes. Wama sahibukum bimajnoun, on a déjà presque tout expliqué à ce propos. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, et là on revient donc à la suite du tafsir, votre compagnon, Muhammad, n'est nullement fou. Parce que les Quraysh, à un moment donné, quand ils avaient essayé de décourager le prophète de continuer sa mission, à un moment donné, ils l'ont traité de fou, c'est-à-dire de possédé. Ils l'ont traité de sorcier. Ils l'ont traité de sha'ir, de poète. Ils l'ont traité de tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais dans ce verset, Allah Azza wa Jalla s'adresse directement à ces Quraysh que votre compagnon n'est pas fou. Et à la suite de verset, on va dire que ça, c'est vraiment la parole d'Allah qu'il a rencontré dans Jibril alayhi salam. Ce qui nous intéresse, c'est le terme wama sahibukum, votre compagnon. Les mufassirins disent pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a utilisé le mot sahibukum afin de rappeler au Quraysh que cet homme-là que vous décriez maintenant, cet homme-là que vous critiquez maintenant, avant c'était votre sahib, c'était votre meilleur ami, c'était votre meilleur compagnon. C'était le référent pour vous, c'était l'exemple. Quand on voulait citer un exemple d'honnêteté, de véracité, de noble comportement, on citait toujours Al-Amin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant qu'il apporte un message qui vient d'Allah, vous le considérez comme la pire des personnes. Est-ce possible que quelqu'un change de comportement de façon si radicale du jour au lendemain? Donc c'est pour mettre les Quraysh face à leur contradiction, comment ils apprécient cette personne et comment maintenant qu'il a apporté un message qui dérange. Le message du Tawhid, ne causait aucun problème de compréhension aux Quraysh. Non, ils étaient très intelligents, les Quraysh. Si on prenait un polythéiste à l'époque de Quraysh, peut-être il est encore plus malin que les gens à notre époque. Comprenez tout, mais ça dérangeait parce qu'il y avait de la politique derrière tout ça. Pas la politique comme à notre époque, je dis si c'est corrompu, mais c'était un autre niveau. Le fait d'avoir les idoles autour de la Kaaba, ça apportait un grand intérêt à certaines tribus. Ils étaient le centre d'intérêt de toute la péninsule arabe. Et lors du Hajj, tout le monde venait et amenait des offrandes, ils payaient des impôts, hein, des gens, on pourrait appeler ça des impôts, des taxes aux Quraysh et à ses tribus pour pouvoir faire le tawaf de la Kaaba, pour pouvoir venir être logé. Ils devaient absolument, il y avait un genre de, comment on appelait ça, un embargo, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en arabe on appelle ça ihtikal, il y avait une mainmise sur même les vêtements. On ne pouvait pas venir avec, ils ne pouvaient pas venir avec leurs vêtements. Il fallait acheter les vêtements avec les Quraysh, absolument. Donc ça faisait tourner le commerce des Al-Makka et ainsi de suite. À cette époque, les tribus avaient mainmise sur la religion. Et donc quelqu'un qui apporte le tawhid, qui dit qu'il faut briser les idoles et qu'on adore un seul Dieu, on ne se soumet à personne si ce n'est qu'à Allah, c'était un discours qui dérangeait profondément. Ça allait mettre fin à ce système totalitaire et abusif. Et les polythéistes de Quraysh ne voulaient pas de ça. Ils ne voulaient surtout pas qu'il y ait ce bouleversement. Alors qu'eux-mêmes, ils savaient dans le fond qu'il ne peut pas y avoir plus de divinité. Quand on demandait « Amman khalaqa as-samawati wal-arda » Qui a créé ?« Wala insaltahum »« Man khalaqa as-samawati wal-arda la yaqulun Allah » Quand on demandait « Qui a créé les cieux et la terre ?» Qui a créé ?» Ils disaient « C'est Allah ». Eux-mêmes, intérieurement, ils savaient qu'ils étaient dans le faux. Ils n'avaient pas « yaqin » sur leurs adorations. Ils n'avaient pas le iman qui apporte la tranquillité du cœur, non. Ils savaient que c'était faux, intérieurement. Regardez l'oncle du prophète à un moment de mourir. Abu Talib, celui qui a protégé le prophète sallam. D'accord, au moment de mourir, le prophète dit qu'atteste qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah. Les autres Quraysh sont venus et disent, non, dis pas ça. N'accepte pas son message. Quelle image tu vas donner de nos tribus? C'est une question de tribu, de fierté, d'appartenance. Vous voyez tout ce qu'il y avait derrière? Donc le message du prophète alayhi salat wa salam, ça dérangeait tout le système que les Quraysh, que les Mekwa avaient installé et qui était totalement abusif, zulm par rapport aux hommes parce qu'ils abusaient des gens et zulm par rapport au créateur parce qu'il leur donnait hein, l'adoration de pierre, il déviait les gens du tawhid, de l'unicité d'Allah. Donc c'était votre compagnon, votre préféré, c'était l'homme le plus aimé de Makkah. La référence à Makkah, on a l'histoire de Khadija radiallahu anha qui demande au prophète alayhi salat wa salam, qui n'est pas encore prophète à cette époque, d'aller faire du commerce pour lui en Syrie. Et le prophète salam, il fait donc le commerce, il ramène les bénéfices et il remet l'intégralité des bénéfices à Khadija radiallahu anha. Ils ne sont pas encore mariés. Khadija est impressionnée par l'honnêteté du prophète salam. Quelqu'un dans une marchandise, d'accord? Par exemple, un noir qui ouvre un truc d'importation de l'île Maurice, d'accord? Il me dit que voilà Ibrahim, je te donne des marchandises, va en Afrique du Sud, va Malawi, va les pays de la zone africaine et va vendre ces marchandises, d'accord? Tu te fais une marge, voilà, et ramène-moi la recette, d'accord? Il me dit que allez, vendre un fromage Kraft, un euro, d'accord? Moi j'y vais, je vois que le marché est attrayant et j'arrive à vendre 2 euros. Il m'a dit qu'il faut vendre ça 1 euro. Tu es ok? Lui, il a payé ça 20 roupies. Évidemment, j'y vais aussi. D'accord? Et donc, j'ai pu vendre ça 2 euros. Quand j'arrive, je dis, ben voilà, 1 euro, c'était le prix convenu. J'ai pu vendre à 1 euro. Voilà donc les 1 euro. Et quand t'es khalas, il a fait ce boulot. Je prends ça. Et je prends le reste pour moi. C'est honnête, c'est pas honnête? Non, il m'a dit de vendre. Le prix, c'est ça. T'as vendu plus, au nom de quoi tu prends une marge? C'était pas le contrat. D'accord? Le prophète alayhi salat wa salam, je caricature, excusez-moi. Le prophète alayhi salat wa salam fait preuve d'honnêteté. Il va vendre et il ramène l'intégralité de la somme à Khadija, alors qu'il est tellement facile dans ce genre de transaction de prendre une partie pour soi et de dire voilà, j'ai pu vendre à ce prix. Il n'y a pas de trace, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de. Je ne sais pas, il n'y a pas de. C'est pas comme le système de nos jours, d'accord? Je ne maîtrise pas les termes commerciaux, mais il n'y a pas de trace écrite, combien ça a été vendu, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de reçu, il n'y a pas de talon, de chéquier, ainsi de suite. pas de code barre, d'accord? Nous, on a des codes barres partout de notre dos, d'accord? Il n'y avait pas de code barre. Donc, le professeur amène l'intégralité de la somme et Khadija était impressionné par son honnêteté. Et c'est par rapport à cette honnêteté que Khadija, radiallahu anha, va demander le professeur de l'épouser. Il n'y avait pas un Quraysh, il n'y avait pas un Arabe qui avait une quelconque reproche à faire au professeur. Personne ne pouvait dire quelque chose de mal sur lui. Tellement c'était quelqu'un qui avait un comportement parfait depuis son enfance. Et c'est les qualités qu'Allah Azza wa Jalla lui avait données. Du jour au lendemain, il dit que j'ai été envoyé par Allah, les gens l'ont traité de tous les noms, et Allah Azza wa Jalla les met devant leur contradiction avec le terme sahib. Le mot sahib, ça les casse. Le mot sahib, c'est-à-dire c'était votre compagnon n'est pas fou. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, voyez le moment clé, il réunit les Quraysh sur le mont Safa, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe, c'était pas Marwa. Il dit que voilà, si je vous dis que quoi, derrière ces montagnes, il y a une armée qui est prête à vous attaquer, préparez-vous. Est-ce que vous allez me croire? Qu'est-ce qu'ils ont tous dit? On te croit, ô Muhammad. Si tu nous dis qu'il y a une armée qui est prête, qui va envahir Mecca, donc prenez les armes, tout de suite. Quittez vos commerces, prenez les armes, on sort et on va les combattre, on te croit sur parole et on y va tout de suite. Alors que préparer une armée pour sortir, c'est pas quelque chose de simple ça. C'est vraiment une situation d'urgence. Elle dit que parce que tu es le plus honnête, tu n'as jamais menti et on n'a jamais vu quelque chose de négatif dans ton comportement. C'est-à-dire que les Quraysh, les Arabes, étaient prêts à le suivre aveuglément. Ils le faisaient une confiance totale. Et là, il a dit que je vous annonce que je suis l'envoyé d'Allah. Et là, ils ont protesté, dit, est-ce que c'est pour ça que tu nous as réunis uniquement pour nous dire ça? Ils ne l'ont pas cru. C'est à partir de ce moment qu'il y a une fracture, parce que quand il dit que je suis l'envoyé d'Allah, ça veut dire que je vais instaurer un autre système. Le système qui est révélé par Allah, qui va mettre fin à l'injustice. Cette notion qui nous fait tellement plaisir, l'égalité, c'était l'égalité que le prophète voulait instaurer dans la société injuste de Mecca où les esclaves entre autres étaient torturés et insultés. Et les Mécois ne voulaient pas de ça. C'est pour ça que ce terme-là, Wama sahibukum bimajnun, c'est que vraiment eux, ils le considéraient comme le meilleur des hommes, c'était leur compagnon et au moment où il amène sa révélation, ça y est, il a perdu leur confiance. Allah Azza wa Jalla les met devant leur contradiction. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. Et on verra la prochaine fois les versets qui parlent du Prophète qui avait vu donc l'ange Jibril Salam. Alors, vendredi prochain donc sera encore des vacances. On va faire une petite pause. D'accord? On va reprendre Inch'Allah le vendredi d'ensuite, c'est-à-dire le lendemain de la rentrée des classes, Inch'Allah. Qu'Allah t'aille dans le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, hein, Inch'Allah, qu'on puisse mettre en pratique, que la réalité des paroles d'Allah Azza wa Jal pénètre nos cœurs et nous permet de nous rapprocher de lui. Wa tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Zakum akhir.